principe de la parole de Dieu, et ce sera dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 9 à 13, un texte bien connu, puisque c'est la prière que Jésus nous a enseigné à prier. Donc Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13. Je vous rappelle que nous lisons la parole inspirée de Dieu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as laissée et pour cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te demandons maintenant de nous accorder la puissance de ton Esprit Saint pour que celui qui a inspiré ceux qui ont écrit ce texte pour nous puisse aussi maintenant appliquer ces paroles à nos cœurs et à nos vies. Sois glorifié dans tout cela. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors un jour, un petit garçon de 3 ans fut surpris par sa mère en train de manger du chocolat qu'elle avait pourtant rangé le plus haut possible dans le placard afin que celui-ci ne le touche pas. Et le petit garçon, pris en flagrant délit, lui aurait dit « Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, je voulais juste sentir le chocolat et puis tout à coup, un morceau est resté accroché à ma dent. » Vous devinez peut-être que nous allons parler de la tentation. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons eu un excellent sermon qui touchait ce thème et j'ai eu envie d'aller un peu plus loin ce soir. Donc, lorsque Jésus nous donne un modèle de prière, il nous dit de prier, entre autres, « Ne nous induis pas ou ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Alors voilà les questions que je pose ce soir et auxquelles je vais essayer de répondre. Premièrement, y a-t-il une différence entre la tentation et le péché? Et si oui, peut-on vivre des tentations sans tomber dans le péché? Ensuite, Dieu peut-il nous conduire dans la tentation? Ou encore, quelles sont les sources de nos tentations? Ou encore, comment la tentation œuvre-t-elle en nous? Et enfin, comment être délivré de la tentation? Eh bien, Dieu voulant, encore une fois, nous allons essayer de répondre à ces questions. D'abord, je dirais que les tentations font partie de la condition humaine. Il n'y a pas une personne qui, d'une façon ou d'une autre, ne passe pas par des tentations. Même Jésus a été tenté. Cela veut dire que la tentation comme telle n'est pas le péché. Lorsque je suis tenté, lorsque vous êtes tenté, vous ne péchez pas. La tentation n'est pas le péché, mais elle est la porte qui, si nous l'ouvrons, nous conduira au péché. La difficulté, c'est qu'il y a une ligne de démarcation très faible entre la tentation et le péché. Il y a ce que j'appellerais un genre de zone grise entre le blanc et le noir. Et cette zone grise est dangereuse. Dès que nous prenons conscience que nous sommes tentés par telle ou telle chose, nous pouvons nous poser la question, est-ce que je veux vraiment cela? Est-ce que je veux vraiment regarder ce film douteux? Est-ce que je veux vraiment tricher avec cet examen? Est-ce que je veux vraiment lui rendre l'appareil? Est-ce que je veux vraiment la femme ou le mari de mon prochain? Est-ce que je veux vraiment l'interdit? Et si mon cœur est déterminé à répondre par un non ferme, je peux être assuré que je ne suis pas entré dans ces deux zones grises qui séparent la tentation du péché. Regardez Jésus. Il est tenté dans le désert, mais il ne s'est pas approché de cette zone grise. Il n'a pas permis à la tentation de mijoter assez longtemps dans son cœur pour lui permettre de rentrer dans cette zone grise, dans cette zone de flirt entre la tentation et le péché. Vous vous souvenez de ses réponses? C'était un non ferme. Non, je ne transformerai pas ces pierres en pain, car il est écrit. Non, je ne me jetterai pas en bas de ces précipices, car il est écrit. Non, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit. Mais alors, comment comprendre cette partie du Notre Père? Ne nous conduit pas dans la tentation. Dieu peut-il nous conduire dans la tentation? Je croyais que c'était Satan qui nous tentait. Dans l'hébreu comme dans le grec, il y a deux différents groupes de mots pour décrire la tentation. Alors l'un contient l'idée de tenter dans le sens de tester. Un peu comme on teste un métal pour en connaître sa vraie valeur. Et c'est dans ce sens que Dieu nous tente, dans le sens de nous tester. Tester notre foi, tester notre amour, tester notre engagement. Dieu nous tente, teste, pour nous rendre plus forts, plus solides, plus dépendants de lui. Souvenez-vous de ce texte, Deutéronome chapitre 8, verset 2, je cite. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Dieu, qui ne veut que notre bien, ne nous tentera jamais pour nous faire tomber. C'est d'ailleurs ce que écrit l'apôtre Jacques au chapitre 1 de son épître, versets 13 et 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente !» Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ce que Jacques dit ici, et c'est le contexte qui le confirme, c'est que Dieu ne tente ou teste pas pour inciter une personne à pécher. Par contre, il y a une autre utilisation du mot « tentation » qui est plutôt négative. C'est la tentation qui a pour but de nous faire tomber. C'est la tentation du malin. Mais dans les deux cas, Dieu reste en contrôle. Il tente parfois ses enfants pour les tester en vue de les faire grandir, mais parfois, il va laisser le diable nous tenter, tout en sachant que le but du diable est de nous faire chuter. Dieu nous donne les moyens de résister à la tentation du diable. Et c'est le cas de Jésus dans le désert. Le texte dit que c'est l'Esprit Saint, qui emmène Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Alors lorsque Jésus nous enseigne à prier, ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Il faut le comprendre comme l'apôtre Paul l'avait compris lorsqu'il écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 10, 13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Il y a des périodes dans la vie chrétienne qui demandent une prudence extraordinaire. Nous sommes conduits dans la tentation lorsque les trois sources principales de nos tentations s'allient pour former un front commun. Alors ces trois sources sont d'abord notre nature pécheresse, et puis ensuite le monde qui nous entoure, qui est un monde déchu, Et enfin, le diable. Jacques écrit au chapitre 1, verset 14 de son épître, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » C'est-à-dire que c'est notre chair, la première source de tentation, notre première convoitise. Et puis ensuite, au verset 14, il écrit, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. » On pourrait dire qu'il y a une espèce de conception de l'objet de notre convoitise qui nous est offert par le monde. Et voici donc la deuxième source de tentation. Mais derrière tout cela, il y a le diable qui cherche à nous faire passer de la tentation au péché. Alors lorsque nous sommes conduits dans la tentation, ça veut dire qu'il y a une véritable guerre spirituelle en nous. Et il y a un bon moyen de savoir si nous entrons dans une période de tentation dangereuse. Nous le savons lorsqu'une simple tentation va persister sans nous laisser de répit. Elle va chercher à convaincre notre raison, notre entendement. Elle va effacer nos émotions. Elle va commencer à mêler les choses dans notre cœur. Et cela va devenir une préoccupation constante. Alors on sait là, dans ces cas-là, quand tous ces éléments sont en place, que nous sommes effectivement rentrés dans une guerre spirituelle, ce sont les fameux jours difficiles dont l'apôtre Paul parle aux Éphésiens au chapitre 6, verset 13. Il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les ruses du diable, contre les esprits méchants. » Et c'est face à ce genre de situation que Jésus a pu dire à ses disciples dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Et il rappellera, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Luc nous écrit quelque chose qui devrait nous mettre sur nos gardes, au chapitre 22, verset 31. « Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Ce texte de Luc nous montre qu'il n'y a pas que Job qui fut attaqué par Satan avec la permission de Dieu. Simon-Pierre apprend qu'il est lui aussi sur la liste favorite du diable. D'ailleurs, quelqu'un un jour a dit, Satan a maintenant plusieurs milliers d'années d'expérience dans le business du mal. Il a ses gadgets, prêt à prendre au filet des chrétiens qui ne sont pas sur leur garde. Il connaît toutes nos faiblesses et c'est souvent par ses faiblesses qu'il va nous attaquer. L'histoire montre son succès. J'aimerais attirer votre attention un instant sur une histoire que vous connaissez sans doute tous très bien, qui est l'histoire du roi David. D'abord, l'occasion. Le roi David vient juste de vivre ses plus grands succès. Il est au sommet de sa carrière. Il a vu la puissance de Dieu agir. L'arche de l'Alliance est enfin de retour à Jérusalem. Israël est en pleine prospérité. Tout va si bien. Mais David semble oublier que les guerres sur ses frontières ne sont pas terminées. La guerre n'est pas finie. Il se relâche et il se retire temporairement de la bataille. Il laisse ses troupes sur le champ de bataille. Il rentre à la maison pour se relaxer. Il néglige sa responsabilité de roi, mais aussi sa responsabilité d'homme de Dieu. À partir de là, nous pouvons observer le processus qui commence par la tentation et qui devient le péché. À partir du texte de 2 Samuel 11, nous apprenons que David est sur la terrasse royale et là il aperçoit une femme qui prend un bain. Il se renseigne, il apprend que c'est la femme d'Uri, un de ses meilleurs généraux, qui est sur le champ de bataille. La tentation fait son chemin. David passe rapidement la zone grise et il invite le péché à entrer. Il fait venir la femme d'Uri dans ses appartements, comme un adultère, et peu de temps après, il apprend qu'elle est enceinte. Alors il fait revenir Uri pour qu'il soit avec sa femme, afin de camoufler sa faute. Mais le mari refuse d'avoir ce plaisir, alors que ses soldats sont toujours sur le champ de bataille. Alors David n'a plus d'alternative. Le péché entraîne le péché. Il envoie Uri en mission impossible, et comme prévu, Uri se fait tuer au combat. Uri est mort, et David peut prendre Bathsheba, la veuve d'Uri, pour femme, ni vue, ni connue. Il a ce qu'il voulait, une belle femme, l'enfant, et le tout légitimé par un mariage fait dans toutes les normes. Tout a commencé par une tentation. La tentation a engendré le péché, d'abord l'adultère, ensuite le meurtre. Et en se laissant séduire par Bathsheba, David ne pensait sûrement pas, mais sûrement pas, que ça le mènerait à l'adultère, encore moins au meurtre. Le diable ne lui a pas montré les conséquences énormes de ce qui paraissait dans un premier temps insignificatif. Le diable ne lui a pas montré que les plaisirs, ne lui a montré que les plaisirs extérieurs, immédiats. Combien d'hommes et de femmes se trouvent aujourd'hui dans des situations impossibles parce qu'elles ont cédé une seule fois à la tentation? Je me souviens avoir lu dans un magazine chrétien l'histoire de cet homme d'affaires, un chrétien, un père de famille, qui a une fois fait une exception lors d'un de ses voyages d'affaires. Il a cédé au charme d'une femme. Le lendemain matin, il s'est retrouvé seul dans sa chambre d'hôtel. La femme en question était partie, laissant un message écrit avec son rouge à lèvres sur le miroir « Bienvenue au monde des Sidéens ». Alors il s'est repenti. Sa femme lui a pardonné son péché. Mais il vit avec les conséquences tragiques de son exception d'une nuit. Le roi David n'a jamais été le même. Le fils qu'il a eu avec Bathsheba décède. David est séparé de son Dieu pendant 9 mois. Et si vous lisez le psaume 51, vous aurez une description détaillée de l'angoisse de son cœur. Il décrit la pollution de son cœur. Il parle de la blessure de sa conscience, du jugement de Dieu, de la perte de la joie qu'il avait, etc., etc. Et vous savez que tout le reste de la vie de David sera marqué par cet événement d'une soirée, d'une tentation qu'il n'a pas su contrôler. Veillez et priez, dit l'Écriture, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ne nous conduis pas dans la tentation, dit Jésus, nous dit de prier, mais délivre-nous du mal. Vous savez, un journal chrétien a fait un sondage posant la question suivante à des chrétiens. Quand est-ce que vous êtes le plus vulnérable à la tentation? 81% disent lorsque nous passons pas beaucoup de temps avec Dieu. 57% disent lorsqu'on est très fatigué. 45% face aux difficultés de la vie. 42% face à toutes sortes de changements dans la vie. 37% après une grande victoire spirituelle. 30% lorsque la vie semble aller si bien. J'aimerais terminer en disant que si la tentation peut facilement nous entraîner dans le péché, Dieu nous donne les moyens de résister à la tentation. Écoutez ce que dit Paul aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu pourrait très bien enlever une tentation qui dépasserait nos forces et notre capacité de résister, mais le plus souvent, il nous demande de nous laisser guider par sa parole. Dans sa parole, il nous laisse plusieurs exhortations, et je voudrais en citer quelques-unes ici. Éphésiens 6, 13. Dieu nous invite à nous revêtir de toutes les armes spirituelles, afin, dit-il, de pouvoir résister dans les jours difficiles. Dieu nous les offre. Prenez-les. Dans 1 Corinthiens 16, 13, il nous invite à veiller. Apocalypse 3, 2 dit d'être vigilant. 1 Pierre 4, 7 nous invite à être sages et sobres pour vaquer à la prière. Marc nous rappellera qu'il faut constamment veiller et prier. Et vous savez, quand on rentre dans des périodes de vacances, où on se relâche parce qu'effectivement, il n'y a plus la discipline de la vie régulière, eh bien, c'est une occasion soit de grandir avec le Seigneur, soit de jouer avec les tentations. À la question, quelles sont les stratégies que vous avez trouvées les plus efficaces pour faire face à la tentation? Voici les réponses données. 84% des gens répondent par la prière. 76% des gens répondent éviter des situations de tentation, c'est-à-dire fuyez la tentation, ne vous approchez pas donc des zones grises. 66% disent ce qui nous a aidé, c'est de lire et d'étudier la parole de Dieu. 52% disent on a besoin d'être redevable à quelqu'un. Jacques 5, 16 et 17 dit confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficace. 33% disent en mémorisant l'Écriture sainte et 2% disent que tout cela ne les a pas aidés. Alors j'aimerais juste terminer en m'adressant aux jeunes de cette paroisse, de ceux qui sont là, de ceux qui écoutent ce sermon sur la cassette. Je veux vous encourager à résister aux tentations de ce monde. Tentation de vouloir être comme les autres, d'être cool. Vous n'avez qu'une jeunesse. Gardez-vous pur pour votre futur conjoint et conjointe. Profitez de cette période de votre vie pour apprendre à résister à la tentation. Demain, vos copains ou copines cool risquent de l'être beaucoup moins. Beaucoup d'entre eux ou beaucoup d'entre elles vivront pour le reste de leur vie avec les regrets et les conséquences de mauvais choix parce qu'ils, parce qu'elles, se sont laissés entraîner par les autres et donc ont cédé à la tentation. Et puis, je m'adresse aussi aux parents, surtout aux jeunes parents, mais moins jeunes, de cette paroisse. Je veux vous encourager à résister aux tentations du monde, de croire les mensonges de Hollywood, que la femme ou le mari du prochain est meilleur que celui ou celle que Dieu vous a donné. De croire les mensonges d'une société matérialiste en pensant que c'est plus important d'assurer une aide matérielle à nos enfants que de les préparer spirituellement à faire face aux vraies difficultés de la vie. Même leurs études, aussi importantes soient-elles, ne sont pas aussi importantes que la formation de leur caractère. Bien que Dieu nous aide, quand nous prions, comme Jésus nous enseigne, ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Regardez le reste de cette prière. Comment est-ce qu'elle se termine? Pourquoi est-ce qu'on a confiance en priant cette prière? Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Voilà le Dieu qui règne, qui est tout-puissant, qui est glorieux, qui nous dit « Je vous donne les moyens de résister à la tentation, c'est entre vos mains. Ne vous inquiétez de rien, apportez tous ces fardeaux à Dieu, il vous déchargera, il vous donnera les forces de résister à la tentation. » Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, car comme nous l'avons encore entendu tout à l'heure, lorsque nous avons eu ce temps de confession de nos péchés, nous sommes tellement conscients de notre fragilité, de notre faiblesse, de notre état de pécheur, nous ne voulons pas jouer avec le péché. Seigneur notre Dieu, donne-nous d'être prudents, de veiller et de ne pas nous approcher de cette zone grise et surtout pas de ne pas la dépasser. Et si nous l'avons fait, bien Seigneur, merci parce que nous avons quelque chose d'extraordinaire qui est ta grâce. Car tu as dit toi-même, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Seigneur, quel Dieu tu es. Bien Seigneur, si c'est notre cas ce soir, si nous avons dépassé ces limites, si c'est une chose qui nous travaille depuis longtemps, donne-nous de faire demi-tour, de revenir à toi dans la repentance, de recevoir un pardon, comme tu nous l'as rappelé ce soir, un pardon éternel et infini. Seigneur, donne-nous le courage de le faire et de repartir sur les bonnes bases et d'apprendre à résister à la tentation. Pour l'amour de Jésus-Christ. Amen.